programme pour essayer de sortir de l'oubli Nicolas Gilbert, qui n'est pas un auteur dont on parle très souvent. Il l'avait lui-même prédit. Au banquet de la vie infortunée qu'on vive, j'apparus un jour et je meurs. Je meurs et sur ma tombe, où lentement j'arrive, nul ne viendra verser des pleurs. Aussi ai-je répondu à l'offre de Richard Renier d'inviter Bernard Viss à nous parler de ce poète vosgien. Trois petits mots sur notre conférencier, dont je salue l'engagement politique, ou devrais-je peut-être mieux dire civique, au service de la ville d'Épinal puis de Saint-Quentin. Il est la preuve vivante qu'on peut être amoureux des lettres et vouloir œuvrer pour le bien-être des citoyens, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies, mais aussi les logements. Ses actions sont nombreuses et je ne peux retenir que ces deux-là. Il est l'initiateur du festival Imaginal, Festival des mondes imaginaires, et du site internet Écrivouge. Mais bien sûr, c'est aussi le spécialiste de Nicolas Gilbert, dont il a récemment publié des œuvres complètes chez Classique Garnier. Et je lui laisse donc la parole.
Merci, Monsieur le Président. Chers amis, on va commencer, si vous voulez bien, par écouter Nicolas Gilbert. Il publie en 1775 une satire intitulée « Le XVIIIe siècle », une sorte de chronique de son temps. Et je vais laisser la parole
à Colette.
Que dirais-je d'Arcas ? Quand sa tête blanchie en tremblant sur son sein se penche appesanti, quand son corps vainement de parfums inondés trahit les mots secrets dont il est obsédé, scandalisant Paris de ses vieilles tendresses, Arcas, sultan goûteux, veut avoir 20 maîtresses. Mais en fripon titré pour payer leurs appâts, Arcas vend au public le crédit qu'il n'a pas. Digne fils d'un tel père, il fit se charger de dettes, mais ses jeunes amours au gage des conquêtes. Plus philosophe encore, Lysimon ruiné épouse un riche opprobre en épousant Friné. Qui blâmerait ses nœuds ? L'hymen n'est qu'une mode, un lien de fortune, un veuvage commode, où chaque époux brûlé d'adultère désir vit sous le même nom, libre dans ses plaisirs.
On peut reconnaître que c'est pas envoyé dire. Imaginez-le, il est là, debout, bousculé par la foule, au milieu du parterre, en perruque poudrée. Il a 27 ans. Est-il vêtu de son habit gris de fer de petit maître, dans lequel un peintre célèbre fera son portrait l'année suivante ? Porte-t-il l'une des 40 belles chemises, belles et presque neuves, l'une des paires de bas de soie et de manchettes de pointe d'Alençon, figurant dans l'inventaire de son linge après décès ? A-t-il au côté cette petite épée comme en portaient alors les jeunes gens lorsqu'ils sortaient ? Certains parmi le public l'ont reconnu, dénoncent sa présence, le conspuent lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes tout entiers voués au culte, délirant et bruyant de leur demi-dieu Kakoshime. Ce lundi 30 mars 1778, Gilbert se trouve au palais des Tuileries, dans les ors et le pourpre de la salle des machines. Il assiste goguenard au couronnement de Voltaire. Il y a le décor prestigieux. Inaugurée en 1662, la salle des machines, l'un des plus vastes théâtres d'Europe, pouvait à l'origine accueillir plus de 4000 spectateurs. L'acoustique y était déplorable. On y donna surtout des balles. En 1778, sa taille réduite de moitié depuis 15 ans présente une jauge d'environ 1500 places. Les troupes s'y succèdent, celles de l'opéra puis les comédiens du roi, de 1770 à 1782. Dans ces années-là, le vocabulaire scénique s'enrichit de deux expressions toujours en usage aujourd'hui. Le côté jardin des Tuileries et le côté cour du Louvre désignent la gauche et la droite d'un plateau de théâtre. La salle reçoit la première du Barbier de Séville de Beaumarchais le 23 février 1775 avant d'abriter plus tard les travaux de la Convention. Incendiée en mai 1871 pendant la Commune, elle sera rasée en 1883. Il y a cette fête que toutes les gazettes décrivent à grand renfort de superlatifs. Séjour de liesse et d'apothéose pour les 1500 personnes entassées sous les dorures de la salle. Deux pièces de Voltaire interprétées par les comédiens du roi figurent au programme de la journée. Irène, en 5 actes et en vers, dont c'est seulement la 5e représentation, ne compte pas parmi les meilleurs de l'auteur. La princesse Irène aime le prince de Grèce, mais ses père et mère exigent qu'elle épouse l'empereur de Constantinople, un certain tyran Nicéphore. Désespérée, elle s'immole d'un coup de poignard, lors même qu'il était permis d'envisager un dénouement moins funeste. C'est une tragédie. Nanine, ou le préjugé vaincu, comédie larmoyante en 3 actes, date de 1749. Angélique, fille de marquis, aime Dorante, mais ne veut pas déroger en épousant un simple bourgeois, fût-il riche et bien élevé. Au bout de 3 actes et de quelques atermoiements, l'orgueil cède à l'amour. 2 pièces, 7 entr'actes. Ce 30 mars est une journée harassante qui fera dire plus tard qu'elle fut décisive dans la dégradation rapide de l'état de santé du vieux Voltaire. Il y a les protagonistes. Les gazettes évoquent peu le nom, mais une partie du Gotha parisien s'est donné rendez-vous dans ce théâtre. Des amis académiciens figurent sur les balcons, plusieurs francs-maçons les décorent. Nous savons que Voltaire est entouré de ses proches. En tout premier lieu, Marie-Louise Mignot, dite Madame Denis, 66 ans, salonnière, épistolière, nièce, gouvernante, compagne, légataire universelle. Hélène Philiberte de Varicourt, 20 ans, protégée du vieillard, sa fille adoptive, qui l'a mariée en novembre 1777 à Charles, marquis de Villette, noceur patenté, bisexuel, de 20 ans son aîné. Le couple loge Voltaire dans l'hôtel de Villette, situé à l'angle de la rue de Beaune et de l'actuel quai Voltaire. On cite Louise Marie Adélaïde de Bourbon, 25 ans, future duchesse d'Orléans. Adélaïde Mazarini Mancini, duchesse de Cossé, 35 ans. Le marquis de Saint-Marc, à qui l'on demande in petto des vers inoubliables, aussitôt récités sur la scène.
Voltaire, reçois la couronne que l'on vient de te présenter. Il est beau de la mériter quand c'est la France qui la donne.
Mademoiselle Lachassaigne, de la Comédie Française, 31 ans, participe à la fête. Peu jolie et d'un talent médiocre, dit-on, elle compte parmi les figures de cette seconde moitié du siècle. Elle est l'une des maîtresses du prince de Lamballe et, pour faire bonne mesure, du duc de Fronsac. C'est elle qui a eu l'idée de couronner sur scène le buste de Voltaire. Une autre comédienne applaudit en chœur, Alexandrine Farnier, 32 ans, spécialisée dans les rôles de soubrette, compagne du poète Dora, dont elle joue plusieurs pièces entre 1773 et 1779. Le comte d'Artois, frère du roi, fait un passage dans l'après-midi. Voltaire est là, et bien là, rompant son long exil à Ferney. Monsieur de Voltaire, 84 ans, est revenu à Paris le 10 février après 5 jours de voyage. Une première depuis 1750, tout de même. Il a fait fi d'un interdit royal vieux de 27 ans et pourtant toujours en vigueur. En ce début d'après-midi, après avoir été reçu en grande pompe par l'Académie française dans les locaux qu'elle occupe au Louvre depuis 1672, il honore enfin de sa présence la 6e représentation d'Irène dans la salle du Palais des Tuileries, située à un quart d'heure à pied. Enfin, car il se remet à peine d'une grave hémorragie dont on a craint le pire pendant plusieurs jours et qui l'a empêché d'assister à la première donnée le lundi 16 mars en présence de la reine, puis aux 4 suivantes. Son arrivée est l'occasion d'une manifestation spontanée au cours de laquelle on dépose une couronne de laurier sur le front d'un buste opportunément porté sur le plateau. La marquise de Villette avait auparavant tenté d'en garnir le héros du jour qui a repoussé cette distinction. Ce jour-là, le vieil homme engrange les honneurs, les discours, les vivas et la fatigue. Le sacre d'une très longue carrière, la geste voltairienne à son acmé. Et il y a Gilbert, donc, 27 ans, le rédacteur de la correspondance secrète, observateur du temps toujours bien renseigné, mentionne la présence du jeune poète lorrain parmi le public.
Il n'y a que le sieur Gilbert, auteur satirique auquel on ne peut refuser du talent, qui est désapprouvé de pareil transport. En sortant du spectacle, il s'est écrié qu'il n'avait plus de mœurs, plus de religion, enfin que tout était perdu. Il est vrai que ce prédicant a manqué d'être assommé par les assistants.
Ce ne serait pas la première fois qu'il manque se faire assommer. Il a eu, justement, j'ai parlé du duc de Fronsac, ce garçon avait quelques reproches à lui faire et avait envoyé sa cavalerie, si j'ose dire. Gilbert serait représenté sur une estampe commémorative, intitulée Couronnement de Voltaire sur le théâtre français le 30 mars 1778, après la sixième représentation d'Irène. L'abbé Duvernay la commande, cette gravure, dans sa vie de Voltaire.
On y voit les spectateurs dans une espèce d'ivresse. Monsieur le comte d'Artois, frère du roi, le corps à demi élancé hors de sa loge. En regard du prince, madame la duchesse de Chartres et madame la duchesse de Cossé donnant le premier signal des applaudissements. Dans un coin de l'estampe, on a groupé la figure de 4 à 5 frérots dans l'attitude des gens qui protestent contre ce couronnement. Le portrait du poète Gilbert, qui, parmi une foule de mauvais vers, en a fait une trentaine de bons, il est fort remarquable.
C'est un satiriste, Gilbert. Il a de temps en temps des retours de bâton, si j'ose dire. Il n'est pas évident de distinguer notre poète dans l'image. Et nous pouvons nous interroger sur cette représentation de la dissidence au sein d'une gravure destinée, évidemment, à rendre hommage au grand homme. Au vu des circonstances de ce triomphe, cette mention graphique du Ourvari tentée ce jour-là par Gilbert et ses amis peut apparaître comme un adoubement de la part du commanditaire de la gravure, qui n'a été livré qu'en 1782, 4 ans après la cérémonie, 4 ans après le décès de Voltaire, 2 ans après la mort de Gilbert. Il y a la date, enfin. Car précisément, le lendemain 31 mars, voit paraître un mince opuscule de 20 pages, sobrement intitulé « Mon apologie, satire ». Sous la signature de Gilbert, très réactif, car son texte mentionne l'événement auquel il vient d'assister la veille. Dès le 1er avril, le surlendemain, l'Année littéraire publie une longue critique enthousiaste de « Mon apologie ». Aujourd'hui, nous ne manquerions pas de pointer la présence du jeune homme à cette représentation d'Irène comme l'élément important, sinon essentiel, d'un plan de communication mûrement calculé, tombant à propos pour créer le buzz dans les salons littéraires, parisiens et autres. Ce second pamphlet, tant attendu après le succès du premier en 1775, le 18e siècle, satire à Monsieur Fréron, connaît également les faveurs du public. 4 éditions s'arrachent en quelques semaines, sans compter 2 publications sauvages, l'une dans la correspondance littéraire secrète de Métra le 4 avril, et l'autre en 2 parties dans le journal historique et littéraire des 15 juin et 1er juillet. Ce lundi 30 mars, dans le cadre doré de la salle des machines parmi la noblesse et les gens de cour, parmi le tout Paris, Gilbert est venu affronter Voltaire, l'ennemi, le mal. Pour la première et la dernière fois, tout juste 2 mois avant la mort du héros du jour, le samedi 30 mai vers 23h, d'un cancer de la prostate. Cette anecdote ne tient peut-être que dans le coin d'une gravure, mais elle fixe un temps, dans la rumeur et la cacophonie symbolisée par ses bras tendus et ses bouches ouvertes sur la gravure, elle incarne ce siècle des Lumières qui anime pendant plusieurs décennies la cour, les bureaux d'esprit, les gazettes. Les philosophes occupent la scène en feignant d'ignorer leurs détracteurs. Tout un monde est piétiné par l'arrogance du nouvel âge, en attendant que ce dernier soit, un peu plus tard, à son tour vilipendé. L'art est au pinacle, soit, mais la cruauté se cache à peine derrière le rideau. Pendant 10 ans, de 1770 à 1780, un jeune homme, attachant, se heurte, combatif et persévérant, à l'écume du monde. Il s'arc-boute sur le vieux dogme de la religion, tout en reconnaissant certaines valeurs aux forces du progrès. Il fustige violemment la morale élastique des nouveaux maîtres de la pensée. Nicolas, Joseph, Florent, Gilbert. Né à Fontenoy-le-Château dans les Vosges le 15 décembre 1750, mort à l'Hôtel-Dieu de Paris le 16 novembre 1780. Il est convenu de se souvenir de lui comme d'un individu triste, malingre, voire atrabilaire, comme d'un esprit chagrin et d'un génie malheureux. On le dit intrigant, arriviste, courtisan, solitaire, triste, acrimonieux. Je me suis arrêté dans la liste parce qu'il y a beaucoup d'adjectifs. Il n'a pas 30 ans lorsqu'il meurt dans des conditions rocambolesques, non pas de faim, non pas de maladie, mais des conséquences funestes d'une chute de cheval survenue 5 mois plus tôt, à la fin du mois de juin. Il est vrai que son œuvre aligne des titres éloquents. Le génie aux prises avec la fortune ou le poète malheureux. Les plaintes du malheureux. Quart d'heure de misanthropie. Tandis que l'un de ses derniers quatrains au banquet de la vie infortunée qu'on vive reste éternellement gravé dans les mémoires. Rappelons qu'il y a abondance de larmes au XVIIIe siècle et que cette fascination lacrymale n'est pas l'apanage d'un Gilbert. Beaumarchais, Collardot, Diderot, Dora, Marmontel, Rousseau, Sedaine, Voltaire, d'autres encore, pleurent comme un seul homme, en société comme dans leurs écrits. Comment mieux justifier qu'on est au plus près de la nature, sinon en exhibant un cœur sensible ? Les prétendants au titre de poète malheureux paraissent suffisamment nombreux pour que Gresset écrive dès 1735 dans son épître à ma muse.
Je lis les noms des poètes fameux. Où sont les noms des poètes heureux ?
Assez commune dans la littérature, cette inspiration prend une ampleur insoupçonnée à partir de 1780, jusqu'à aboutir aux élans lyriques d'un André Chénier, et dès le début du siècle suivant aux éclats du romantisme, dont certains, Musset, Flaubert, Nodier, ont voulu voir en Gilbert l'un des précurseurs. S'il n'est pas le premier à traiter ce thème, notre poète en effet n'est pas le dernier. Souvenons-nous que Nicolas Gilbert est, avec Thomas Chatterton, qui se suicide à 17 ans, et André Chénier, guillotiné à 31 ans, l'une des trois jeunes agonies convoquées dans le Stello d'Alfred de Vigny en 1832. Et si l'on ne prenait pas pour argent comptant toutes les plaintes du poète malheureux ? Si nous procédions autrement que nos prédécesseurs qui ont confondu l'œuvre et l'homme ? À l'image de l'abbé Laffey qui écrit dans sa thèse en 1898, les documents qui nous ont servi dans notre travail sont d'abord les œuvres du poète, dans lesquelles sa vie se reflète comme dans un miroir. Ah, l'abbé, si c'était si facile! Toujours réductrice, la géographie résume une existence à quelques événements symboliques afin de produire moult chapitres à valeur d'exemple pour l'édification des foules. Gilbert n'échappe pas à la règle, avec cette martingale inusable, poète malheureux, persécution par les philosophes, mort pauvre à l'hôpital. Et si l'on ne se prosternait plus devant sa mémoire, comme le propose Hégésippe Moreau, l'auteur de la satire du XVIIIe siècle est une gloire consacrée devant laquelle on s'agenouille en fermant les yeux, écrit-il. À l'évidence, la réalité est comme toujours plus complexe. Il est de bon ton d'accoutrer Gilbert d'une affligeante propension à se tourner vers ceux qui serviraient ses intérêts. Un arriviste, laisse-t-on entendre. Cette critique trouve son origine dans la démarche faite auprès de D'Alembert dès son arrivée à Paris. Mais cette démarche résulte d'une lettre de recommandation signée de sa protectrice lyonnaise, Madame de la Verpillière, dont on a jusqu'ici minoré l'importance sur le parcours de Gilbert. La même qui lui a ouvert les portes de l'édition en 1770 pour son premier ouvrage, Les familles de Darius et d'Idane, à Lyon puis à Paris. Au milieu de la seconde partie de ce roman, une phrase discrète, citant de prétendus philosophes, trahit déjà des idées conservatrices. Intrigant et courtisan, Gilbert ? Il est seulement de son temps. Un temps où se créer un réseau et une réputation nécessite plus encore qu'aujourd'hui une évidente souplesse d'échine. Rares sont les écrivains qui, au XVIIIe siècle, vivent uniquement de la vente de leurs ouvrages. Quand je dis rare, c'est un peu une litote, n'est-ce pas ?
Ça n'a pas beaucoup changé.
Pardon ?
Ça n'a pas beaucoup changé.
Voilà. Oui, mais bon, au XVIIIe, c'est encore pire que aujourd'hui.
Peut-être.
Le public est restreint. Sans fortune, un écrivain est en quête de prébende. Il doit rechercher un mécénat, le plus souvent aristocratique, ou une pension royale. Comme Jean-François Marmontel, qui à ses débuts 20 ans ou 30 ans plus tôt, disait rechercher dans les salons des protecteurs et quelques moyens de fortune. C'est le cas de Gilbert. Il semble ne s'être jamais départi de sa foi catholique, bien ancrée depuis son enfance à Fontenoy-le-Château, ni de ses convictions royalistes solidement acquises au cours de son adolescence. Fréquentant divers cercles littéraires à Lyon, Nancy ou Paris, Gilbert se frotte à l'indigence affective plutôt qu'à l'indigence matérielle. Sa brève vie d'adulte se déroule dans le petit univers mondain, factice, cruel, aux relations contrefaites, corrompues par la ténacité sournoise de petites et grandes haines. Il arrive dans la capitale mal aiguillé par ses lettres de recommandation. On l'envoie du côté des philosophes, c'était pas forcément la meilleure chose. La douche est froide, mais non, le seul mépris d'un ponte académique nommé D'Alembert ne lui dicte pas son choix de parti, puisqu'il faut absolument être du clan des philosophes ou de celui des catholiques et de Fréron. Il affiche avec clarté et conviction ce qu'il est au plus profond de lui, un jeune intellectuel généreux, croyant, conservateur, pétri d'une histoire séculaire respectueuse des anciens et de leurs règles. Une lettre du flamboyant Charles-Joseph Prince de Ligne, adressée à Voltaire, permet de fixer avant septembre 1772, c'est-à-dire 3 ans avant la première publication de sa première satire, la version publique de Gilbert pour le parti philosophique, du moins envers quelques-uns de ses membres. Solitaire, Gilbert ? Le mot spleen, né autour de 1745, n'est pas encore d'un usage très courant. Plus tard, on mêlera facilement spleen et solitude, et la tentation sera grande de développer autour de pareilles figures un isolement censé favoriser malheur et fatalité. Ce concept ne convient pas du tout à notre poète, qui ne s'est pas enfermé dans la solitude, loin de là, habile qu'il se montre à se constituer un réseau, aussi bien à Lyon qu'à Nancy ou Paris. Hier comme aujourd'hui, choisir la voie de l'écriture entraîne des difficultés à qui veut s'élever dans le cadre social. Gilbert n'échappe pas à cette condition quasi universelle du poète cherchant à vivre de son art. Force est de reconnaître qu'il est aidé par des âmes bien intentionnées qui lui permettent de s'extirper avec éclat de son origine provinciale. Transclasse, le mot n'existait pas à l'époque, mais transclasse, il a compris qu'on n'est soi qu'avec les autres. Triste, Gilbert, frappé par le malheur, se morfondre, donner à croire qu'il souffre de la pauvreté et d'un mauvais départ dans la vie, si on l'observe bien, est un penchant littéraire à la mode qui ne lui dure qu'un moment au cours des années 71 et 72. Et dans ces 4 derniers mois, on suppose, cruellement marqué par sa chute de cheval et ses suites qui conduiront à son décès prématuré. La Vox Populi prétend qu'il n'y a pas si loin du rire aux larmes. Nous devons aussi écouter le rire du poète. Sous la métrique du vers, une jubilation certaine se dessine. Gilbert n'écrit pas ses satires dans l'angoisse permanente et la mélancolie morbide que d'aucuns lui prêtent exagérément, mais dans l'exultation et la plaisante satisfaction de faire mouche. Sous le ton parfois sentencieux du procureur, il est vrai, il se gausse du dédain de ses pairs et méprise leurs critiques, tout en tenant compte avec constance. On devine l'élan du verbe, la joie de réussir une saillie mémorable ou quelques vers formant un ensemble harmonieux ou plein de malice. On perçoit la jubilation d'une lecture publique dans les salons bruissants où il est accueilli. Quelques contemporains ont brocardé sa manie de marteler chaque syllabe en déclamant ses vers à voix haute, en frappant du talon avec le pied, à la cadence avec le pied, pardon. Gilbert lit ses satires comme on croise le fer, avec une rage démonstrative, un peu dans l'esprit et la pratique des slameurs de notre 21e siècle. Rimes et rythmes, souffle et subversion, virulence et contestation. Acrimonieux, Gilbert ? Sans nul doute, il est acerbe. Il n'a pas la réputation de subir en silence. Un peu vosgien, quand même. Plusieurs faits inspirent un sentiment concordant. Je cite sans m'y attarder ici son attitude revêche dans l'affaire de la mort d'Abel, ses réactions vigoureuses lorsqu'il échoue au prix académique, des fâcheries avec ses amis, Baculard d'Arnaud, Humbert, Palissot et d'autres, son épigramme adressée à la baronne de Prinzen. Je cite rapidement, si vous voulez, on en reparle après. Et bien sûr, sa présence militante au couronnement de Voltaire. Il fait preuve de courage. Dénoncer les abus commis par de hauts personnages n'est pas sans danger à cette époque. Comment séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux? Où situer le vraisemblable? Voici des questions propres à passionner le biographe. Nicolas Gilbert est connu des lecteurs de notre siècle comme l'auteur de cette inoubliable strophe hétéromètre en rime croisée.
Au banquet de la vie, infortuné convive, j'apparus un jour et je meurs, et sur ma tombe où lentement j'arrive, nul ne viendra verser les pleurs.
Préfigurant le romantisme de façon magistrale, ces quatre vers portent à la compassion sur le sort du poète, de l'homme incompris. Ils sont devenus, dès leur publication, puis au fur et à mesure des époques, la signature de Gilbert. Partagé de génération en génération jusqu'à nos jours, il constitue l'allégorie stupéfiante du temps qui va, inexorablement, dans l'indifférence. Le tableau cruel de ce banquet de la vie agit dans la conscience collective comme une scène universelle où le poète subirait l'opprobre de ses contemporains. Tous Judas, même vous, même nous ici, cet après-midi. Dès ses premiers pas, une part de l'inspiration de Gilbert bâtit sa légende. Outre ce célèbre quatrain qui, publié en octobre 1780, sonne comme un testament, que dire de l'un des textes insérés dans le premier recueil de ses œuvres en mars 1771, intitulé « Début poétique » sous le titre « Les plaintes du malheureux ».
Malheur à ceux dont je suis né, père aveugle et barbare, impitoyable mère, pauvre. Vous fallait-il mettre au jour un enfant qui n'hérita de vous qu'une affreuse indigence? Encore, si vous m'eussiez laissé votre ignorance, j'aurais vécu paisible en cultivant mon champ. Mais vous avez nourri les feux de mon génie. Mais vous-même, du sein d'une obscure patrie, vous m'avez transporté dans un monde éclairé. Maintenant, au tombeau, vous dormez sans alarme.
Cruel, n'est-ce pas? Mais que penser de ces abominables reproches à l'égard de ses parents? Est-on dans l'autobiographie ou dans l'invention poétique? Il semble qu'un contentieux l'oppose à ses frères au sujet d'une dette contractée lors de ses études à Dole. Cette affaire trouvera d'ailleurs sa conclusion l'année d'après, enfin deux ans après, en 1773, et du partage de l'héritage, mais ni sa mère décédée l'année de ses 8 ans, ni son père, décédé l'année de ses 17 ans, ne sont là pour mériter de telles foudres. Cette amplification hyperbolique a-t-elle été comprise comme telle? Cette malédiction emphatique exprimée vis-à-vis de ses parents, je mets les guillemets, c'est, a-t-elle été controversée par quelques amis, par des membres de la famille qui n'auraient peut-être pas compris l'intention poétique? A-t-il considéré ses vers trop faibles? Toujours est-il que le texte sera retiré du recueil lors de sa seconde édition en 1772. Deux autres compositions, l'une publiée également en 1771, Les quarts d'heure de misanthropie, l'autre l'année suivante, Le génie aux prises avec la fortune ou Le poète malheureux, contribuent à la formation d'une image dépréciée de Gilbert, parce que partielle est tournée vers une lamentation supposée sur son sort personnel. Ces quarts d'heure de misanthropie, repris avec d'abondantes corrections dans l'édition de 1772, se concluent en ces termes.
Mon lit sera la feuille, un autre ma chaumière, l'herbe ma nourriture, et l'onde ma boisson, mes plaisirs l'innocence, et mon bien la raison. Ainsi, par les sentiers de la misanthropie, quand au bord du tombeau je serai parvenu, avec ces tristes mots, j'exalterai ma vie. J'eusse aimé les humains s'ils aimaient la vertu.
J'eusse aimé les humains s'ils aimaient la vertu. En août 1772, du haut de ses 21 ans, il reprend le fil de cette inspiration et présente un nouveau poème au concours de l'Académie française, Le génie aux prises avec la fortune ou Le poète malheureux.
Quel que soit mon orgueil, oui, j'aimerais à croire que j'ai par trop d'audace irrité mon malheur, que je frappais son titre aux portes de la gloire. Il en coûte à mon œuvre de vous croire méchant. Mais expliquez cruel l'énigme de ma vie, ou rendez-moi raison de votre barbarie.
Je frappai sans titre aux portes de la gloire. Dans toute œuvre littéraire, un récit à la première personne interroge. Qui est ce « je » qui peut ne pas être tout à fait un autre ? Cela ne signifie en rien que « je » contient tout de ce qui constitue la vie et le mystère de son auteur. Gilbert s'est livré à une lacrymothérapie pendant 2 années tout au plus sur les 12 passés à écrire. Retenons qu'il cherche à construire un personnage, un mythe, qui lui permettent de singulariser sa plume, son nom, sa voix, au milieu de l'importante somme poétique qui traverse son siècle. Car ce qui mine notre auteur, ce n'est pas tant la misère relative que la maladie. Il est de constitution fragile, et le peu de correspondance que le temps nous a permis de conserver fait parfois état d'épisodes sanitaires délicats. Un progrès serait accompli si l'on s'accordait à concevoir que ces portraits sont des métaphores au service d'un archétype littéraire. Marie-Jeanne Durie, dans son Gérard de Nerval et le mythe, paru chez Flammarion, rapporte ces propos de Nerval. Certains conteurs ne peuvent inventer sans s'identifier aux personnages de leur imagination. Ils arrivent à s'incarner dans le héros imaginaire, si bien que leur existence devient la leur. Don Juan est-il Tirso de Molina ? Miguel de Cervantes est-il Don Quichotte ? Rocambole est-il Pierre-Alexis du Terrail ? Molière est-il Harpagon ? Le Père Ubu est-il Alfred Jarry ? Les exemples sont infinis. Gilbert est-il le poète malheureux ? Non, sans doute. Dès le XVIIIe siècle, on s'acharne pourtant sur le sort du pauvre Gilbert. Ses biographes recueillent avec désinvolture toutes les légendes, les forgeant au besoin. Tout ce qu'on dit de Gilbert, comme tout ce qu'on dit de Jeanne d'Arc, est vrai et faux.
C'est bien la comparaison.
Si bien que la représentation qu'on peut se faire de lui aujourd'hui est devenue floue, voire erronée. Chacun n'a de cesse de peaufiner cette fiction gilbertienne. Il s'agit de montrer son visage éclairé par la foi, avec suffisamment de conviction ou d'indécence, selon qu'on se range du côté philosophe, on le dit mort fou, ou du côté catholique, on en fait un parangon de vertu. Divers abbés se sont épris sans nuance de notre enfant de cœur. Un premier exemple, l'abbé Pierre Huot, Pierre d'Arc de la Société des gens de lettres du clergé de Paris, élu cubre en 1893 sur le soldat Bernadotte. Le livre de cet abbé étant benoîtement dédié à Oscar II, roi de Suède, il fallait assurer.
Le seul ami de cœur qui ne pleura et déposa sur la fosse recouverte une petite croix noire fut le soldat Bernadotte, futur roi de Suède. Gilbert l'avait désigné comme son unique héritier. Par testament holographe, il lui donnait sa cassette et quelques écus d'or qui s'y trouvaient renfermés, les livres de sa petite bibliothèque, ses manuscrits, ses meubles et les petits riens artistiques qui peuplaient les tiroirs et les rayons de sa table de travail. Bernadotte entra en possession de cet héritage avec la gratitude et les délicatesses d'un ami pour son ami. Il prit un soin jaloux à pourvoir à la bonne renommée et à la gloire littéraire de son poète en travaillant à la publication de ses œuvres. Grâce à Bernadotte, rien de ce qui a été écrit par lui, en vers ou en prose, n'a été perdu. Bernadotte a été l'ami de Gilbert, le serviteur de sa gloire et de son apothéose dans l'histoire des lettres de la poésie. Parmi les reliques de la famille laissées par Gilbert à Bernadotte, se trouvait un vieux livre basané à tranches rouge-brique. C'était le livre de son aïeul maternel, un recueil de prières qui avait laissé passer les hommes et les choses, répétant sans changer un mot la vie, le grand œuvre, le sacrifice d'un Dieu mort pour nous. Dans les difficultés de sa vie intime, dans les orages de sa vie publique, dans ses joies, dans ses douleurs, Gilbert l'avait souvent ouvert et médité, y trouvant fidèlement immobile le conseil, le sourire, la parole amie et les consolations dont il avait besoin. Au marge de ce livre, des notes écrites à l'encre vernie rappelaient les noms des ascendants, les dates et les anniversaires de naissance et de mort. Ce livre avait été illustré d'une note marginale en 1751, au jour du baptême de Gilbert. Sur le feuillet, qui disait au lecteur les bénédictions du ciel sur les berceaux, le poète avait découvert comme une auréole faite d'une larme séchée.
L'abbé Pierre Huot a dû passer longuement du temps au confessionnal. Il n'y a strictement pas un seul mot de vrai là-dedans. Pas un. Reprenez n'importe lequel, tout est faux. Et pourtant, c'est les choses qu'on entend et qui se colportent de siècle en siècle. Enfin voilà.
Et pourquoi tu fais ça ?
Parce qu'il avait dédicacé son bouquin à Oscar II et qu'il fallait absolument que l'ancêtre d'Oscar II puisse figurer dans, sur la photo, quoi, en gros. Quand je dis qu'il n'y a aucun mot juste, Bernadotte était trop jeune. Il est né en 1763. Il a été engagé en 1780, c'est-à-dire l'année où Gilbert était plus trop saint, pour avoir rencontré Gilbert. L'un se trouvait entre Pau et la Corse, et l'autre entre la Lorraine et Paris. Bon, je sais pas, un SMS peut-être ? Je sais pas. Tout est faux. C'est bien dit, hein. Bernadotte n'a jamais... Enfin, je prétends pas qu'il l'ait jamais lu, parce que peut-être. Mais en tout cas, à ce moment-là, il savait même pas qui il était, quoi. Il a jamais fait un geste pour les publications des œuvres de Gilbert. Jamais. Donc voilà, enfin, et tout est là, l'argument. Un second exemple... Voici ce qu'écrit un autre religieux, ils sont doués pour ça, hein. L'abbé Constant Olivier, dans sa monographie de Fontenoy-le-Château, solidement documentée par ailleurs, parue un an plus tard, en 1894.
C'est que Gilbert fut un de ceux qui porta sa croix à la suite du Christ et préféra à toutes les apostasies de son temps l'honneur sans tâche de vivre dans la pauvreté et de mourir pour la vertu. Il tomba dans la vie comme au milieu d'une tempête. Après une apparition rapide, il fut englouti, mais un cri sublime est resté de lui, celui du naufragé qui murmure une dernière prière avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan. Une immense commisération est remontée d'en bas vers son grabat désolé. Les adieux de Gilbert ont dépassé le requiem de Mozart.
Un troisième exemple, enfin, dans la longue cohorte des fictions qui ont construit le mythe de Gilbert. Celui que vous connaissez, si vous connaissez Gilbert, vous connaissez principalement le mythe de Gilbert. C'est vraiment... Il faut ménager une place de choix à un ouvrage réédité 20 fois entre 1840 et 1900 et qui a distillé dans les esprits le mythe d'une sœur religieuse. Sous le titre évocateur, Gilbert ou le poète malheureux, l'abbé Clovis Pinard, curé du diocèse de Tours, publie la correspondance de Gilbert avec l'une de ses sœurs, dont il ne donne pas le prénom, il était bien en peine de le faire d'ailleurs, entrée en religion. Sans doute inspiré par le peintre Montvoisin qui avait produit 2 ans plus tôt une toile figurant Gilbert sur son lit d'hôpital, accompagné d'une bonne sœur. Destiné à faire pleurer dans les chaumières tout en fixant le portrait sans nuance d'un poète catholique victime des philosophes, ce roman de 210 pages n'épargne aucun des clichés les plus éculés conçus depuis longtemps par le clan catholique. Gilbert a 2 sœurs aînées, Marie-Rose, qu'il n'a pas connue et pour cause elle est décédée en mars 1746 à l'âge d'un an et 7 mois. Anne-Françoise, décédée elle en 1816 à 69 ans, s'est mariée en 1773 avec Léopold de Raguel à Fontenoy-le-Château, lui donnant plusieurs enfants. On cherchera vainement une sœur religieuse, et même un frangin religieux. Hein. La fiction de l'abbé Pinard a parcouru le temps et l'espace, on la retrouve dans les bibliothèques françaises, africaines, québécoises et ailleurs, elle est partout. Elle a diffusé la légende de Gilbert dans les pays catholiques de langue française. L'abbé Pinard est parvenu à contaminer l'université. En 1984, une thèse publiée en Italie par l'université de Lecce, je ne donne pas le nom de la personne parce que quand même, consacre 70 de ses 398 pages aux lettres fictives adressées par sa sœur, comme si c'était des œuvres de Gilbert, comme si c'était sa correspondance, alors que non. La liste des errances biographiques ne peut prétendre à l'exhaustivité. En voici quand même rapidement quelques-unes. Gilbert n'est pas né en 1751, mais bien en 1750. Ouvrez la plupart des dictionnaires, en tout cas pas les derniers, mais bon, mais quand même. Il faudrait dans les dictionnaires et sur la façade de la faculté de droit de Nancy effacer cette date erronée. Il y a un beau médaillon qui présente le visage de Gilbert sur la façade de la fac de droit, et ben c'est 1751, non, c'est 1750. Deuxièmement, ses prénoms sont Nicolas, Joseph, Florent, comme il est stipulé sur les registres paroissiaux, et non Laurent. Mais comme Joseph Florent, vous voyez, ça glisse un peu, donc tout d'un coup, il s'est retrouvé appelé Laurent. Mais son prénom usuel est bien Nicolas, comme on le constate dans plusieurs documents contemporains. Il n'est pas, suivant l'expression consacrée, né de parents pauvres et sans fortune. Je pourrais développer, j'ai pas le temps ici. Son père était marchand de grains. Ils avaient quand même trois maisons autour de Fontenoy. Son père a été maire de Fontenoy. Bon, c'est pas tout à fait. Et ils l'ont envoyé en faire ses études, non pas à tout près, mais à Dole. C'était quand même pas tout à fait. Voilà. Enfin bon, il y avait quand même une certaine aisance. Mais vous lirez partout qu'il est né de parents pauvres et sans fortune. Quatrièmement, nous avons vu qu'il n'a pas de sœur religieuse, c'est une invention romanesque de l'abbé Pinard. Cinquièmement, la première nuit à Paris, à la Belle Étoile sur le Pont Neuf, n'est qu'un détail imaginaire destiné à crédibiliser la légende du poète malheureux. Certains font état de trois nuits. Madame de la Verpillière, l'une des plus riches de Lyon, lui donne des lettres de recommandation pour D'Alembert et quelques autres. Vous croyez qu'elle ne lui aura pas payé sa diligence et puis qu'elle ne lui aura pas donné quelque argent pour survivre au moins les premiers jours à Paris? Ah non, ça m'étonnerait quand même, d'autant qu'il est resté en bonne relation avec elle. Voilà. Nous avons vu qu'il n'avait pas de lien avec Bernadotte, ce sont les souvenirs de la marquise de Créqui, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, qui crée cette anecdote de toute pièce. Il n'a pas écrit sa plus célèbre strophe qu'on a déjà entendue deux fois aujourd'hui. Elle est publiée un mois plus tôt dans le journal de Paris, le mardi 17 octobre 1780, et assurément composée bien avant. Il est décédé à l'Hôtel Dieu, et non chez lui, rue de la Jussienne. Dans les derniers mois de sa vie, il loge à Charenton, dans une propriété de l'archevêque de Paris, quand même. Qu'il avait fait transporter à l'hôpital à la suite d'une crise de démence, parce que Gilbert vivait depuis trois semaines, un mois, là, chez l'archevêque. Puis de temps en temps, il sortait la nuit en braillant. Bon, alors l'archevêque s'est dit, il faut peut-être quand même quelques douches froides. On l'envoie à l'Hôtel Dieu. Et il n'est pas mort pauvre, même s'il a pu vivre un moment dans une gêne effective. En 1780, il bénéficie de pensions qui lui permettent de voir l'avenir mieux que décemment. Louis-Sébastien Mercier, qui est quand même un auteur important, prétend que l'expression « sans culotte » viendrait d'une satire adressée à Gilbert. Ça fait 50 ans que je la cherche. Sans la moindre source, nous n'avons trouvé ni le nom de l'auteur, ni le texte incriminé. Il n'empêche que tous les dictionnaires étymologiques reprennent en cœur cette version qui me paraît fantaisiste. Un truc encore intéressant, 11e point, le colonel Oscar Gilbert, vous n'avez jamais entendu parler de lui évidemment, c'est un mécène canadien, c'est le mécène canadien de la statue de Fontenoy érigée en 1953. C'est un patron de presse, c'est le journal Le Soleil à Montréal, et c'était vraiment un grand journal québécois. Ben, le colonel Oscar Gilbert n'a strictement aucun lien de parenté, même s'il l'a dit, écrit et clamé avec Gilbert. Il descend d'une famille de faussonniers, enfin de deux frères faussonniers de Touraine, qui avaient été envoyés au Québec par le roi de France, parce qu'il en avait marre de voir leurs activités. Bon, ben, enfin on va pas crier, il a payé la statue de Fontenoy Château. Et 12e et dernier truc, mais je pourrais en donner comme ça longtemps. Vous connaissez cette fois à peu près tous le monument qui est aux catacombes de Paris. Non ? Ça vous dit rien ? Ah ben voilà, allez-y voir. Il y a un superbe monument qui est une sorte de mausolée, sauf qu'il n'y a rien dedans, c'est vide. Il n'y a pas d'ossement de Gilbert là-dedans. C'est simplement, j'ai perdu son nom, celui qui a recréé les catacombes, qui a fait les décors, j'allais dire, qui a inventé des phrases et qui a repris là, sur ce monument-là, le fameux texte de Gilbert. Mais il n'y a rien de Gilbert là-dedans. En revanche, Gilbert est vraiment aux catacombes. Enfin, a priori, aller chercher ses ossements, ça, c'est autre chose. Parce que Gilbert n'a pas vécu une vie banale, mais sa dépouille a été bousculée également. Inhumée dans le cimetière de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs de Paris, aujourd'hui détruite depuis longtemps, ses restes ont été transportés dans cette gigantesque fosse commune qui sont les catacombes et se mêlent à des millions d'ossements anonymes. En revanche, si Gilbert est mort jeune, sans atteindre ses 30 ans, bonjour, ce qui semble le plus légendaire de sa courte existence, ce qui frappe le plus les esprits, est exact. L'absorption d'une clé, restée accrochée dans son œsophage, conduit à son étouffement dans des souffrances atroces. Une autopsie l'a prouvé. Donc un coup en crise de l'errance, alors... C'est la clé d'un coffre, enfin d'une cassette. Elle faisait quand même ça, je ne sais pas si une cassette a...
Il avalait ça.
Et il avalait ça dans une crise, voilà, douche froide, trépanation.
Excusez-moi,
je n'ai
pas compris
l'absorption de quoi. D'une clé, la clé d'une cassette qui est restée accrochée à la glotte. Et comme il avait des crises sur la fin, la trépanation, les douches, enfin, je vous laisse un peu imaginer, de temps en temps il n'était pas très bien, et puis à un moment il se tenait là, il ne parlait plus, il agissait. Puis personne ne l'a cru. Quand il est mort, dans la souffrance atroce, on a quand même ouvert, le toubib de l'Hôtel Dieu a ouvert et a trouvé cette fameuse clé. Voilà.
C'est symbolique.
Tout à fait, oui. D'ailleurs, il y a Paul Jean Toulet qui a écrit « Ah, Faustine, mourir et puis s'éteindre, mourir comme Gilbert, on avait l'air sorti. » Écrire est un acte solitaire, mais Gilbert, on l'a vu, frotte et polit son travail dans les bureaux d'esprit qu'on nommera plus tard les salons. Il y essaye son style, hasarde ses tournures, ajuste ses pics, parfois plusieurs années avant de faire paraître son œuvre. Dès le début de son aventure, dans les villes qu'il fréquente, il s'est intéressé à lui, des personnes remarquables, la plupart fortunées et reconnues. Il entre dans des cénacles de premier ordre, s'entoure d'amis plus ou moins proches dans lesquels on note la présence entre autres d'Élie Fréron et de membres de l'année littéraire, l'abbé Grosier, l'abbé Royou, Palissot, Salone. Élie Fréron, je passe vite, hein, c'est Voltaire, vous savez ce qu'il a dit de lui. Un jour, un serpent mordit Jean Fréron, ce fut le serpent qui en creva. Je cite peut-être un peu aléatoirement. Mais... Pardon ? Et ce fut le serpent qui en creva.
Ah, d'accord.
C'est sympathique.
Oui, très.
Au-delà du cercle amical et professionnel, il gagne à sa cause par l'intermédiaire des uns ou des autres le ministre Vergennes, secrétaire d'État des Affaires étrangères de Louis XVI, qui obtient pour lui un traitement annuel de 1000 livres sur les fonds littéraires de son département des Affaires étrangères, l'archevêque de Paris, qui le protège et le loge à la fin de sa vie, ou de Madame Louise de France, la fille Louis XV, qui lui obtiendra également une pension royale. Il y a plus pauvre quand même.
Hein. En fait.
À Lyon, il arrive de Dole, il fait des études à Dole. On ne sait pas, il y a 2 ans, on ne sait pas ce qu'il est devenu là. Mais il arrive à Lyon, et pas chez n'importe qui. Le jeune, il a quand même, il n'a pas 20 ans, il a 18 ans. Il arrive, il vit un temps à Lyon, suffisamment pour fréquenter la belle société. Il s'attire les bonnes grâces de Madame de la Verpillière. Vous ne connaissez pas Madame de la Verpillière. Il y a encore un député, enfin je ne sais pas s'il était réélu la dernière fois, qui s'appelle Monsieur de la Verpillière. Catherine de la Verpillière est née à Lyon en 1720. On conçoit facilement qu'elle a pu être le mécène qui a permis l'impression à Lyon et à Paris des familles de Darius et d'Idarne en 1770. Gilbert n'a pas 20 ans qu'il publie un roman. Lorsqu'il souhaite monter à Paris, elle lui donne plusieurs recommandations, dont une à D'Alembert, l'un des hommes puissants de Paris, qui sera élu secrétaire perpétuel de l'Académie française le 9 avril 1772, donc un an plus tard. En 72, justement, le débit poétique est dédié à Madame de la Verpillière. Il écrit « Je cultive les lettres par vous. Il me fallait un mécène pour soutenir le grand jour. Vous daignez m'en servir. Vous m'avez permis d'entrer sous vos ailes dans la carrière des lettres. » Elle a dû payer un peu quand même. Hein. Fille d'un capitaine au régiment de Normandie, chevalier de Saint-Louis, commissaire aux revues et passages des troupes, elle est la petite fille d'un prévôt des marchands de Lyon. Le 15 novembre 1934, âgée de 14 ans, Elle épouse Charles-Jacques Leclerc Dufresne, né en 1705, chevalier, seigneur de la Verpillière, lieutenant du roi de la province de Guyenne, chevalier de Saint-Louis, prévôt des marchands, chargé du commandement de la ville, de Lyon de 1764 à 1772. Il est académicien associé à l'Académie royale des sciences, belles lettres et arts, tout comme Voltaire, qui est un ami du couple. En 1770, il semble que le jeu soit une activité à la maison du prévôt des marchands. On jouait à tous les trucs, on dépensait des sous, enfin bon. Cette même année, il fait représenter, quand même, il y avait un aspect culturel, sur un petit théâtre construit à l'hôtel de ville, deux divertissements en un acte de Jean-Jacques Rousseau, Pygmalion et le devin du village, en présence de l'auteur, quand même. Monsieur le prévôt des marchands et Madame la prévôte des marchands, bien faite pour la place qu'elle occupe, reçoivent avec toutes les grâces possibles. Tous les jours, plus de 50 personnes trouvent à leur table la meilleure chère du monde et le plus aimable accueil. Au château de la Verpillière, le prévôt des marchands reçoit avec faste ses voisins et de nombreux Lyonnais. Il y avait 100 personnes invitées, la consommation du jour fut de 12 moutons, un veau et demi, 100 livres de bœuf et 50 volailles, ce qui doit donner une idée du reste. On dit que les amusements furent aussi bruyants en proportion, de sorte que plusieurs dames en sont revenues lasses et excédées de plaisir. Gilbert aurait également obtenu des recommandations de la part du comte Charles-André de Lacorée, intendant de Franche-Comté de 61 à 84, un haut personnage né aussi en 1720. Il est conseiller au Parlement de Paris en 1741, maître des requêtes au Conseil d'État en 49, président du Grand Conseil, intendant à Montauban, intendant de Franche-Comté, grand maître et producteur perpétuel de la loge maçonnique La Sincérité. Gilbert n'est pas... D'accord ? Évacuez ça de vos esprits. Il n'est pas, pauvre et malheureux. À Nancy. Alors à Nancy, il y a quelque chose quand même de très, très intéressant. Il devient l'ami intime de Christophe Lavaux. Alors, ça ne vous dit rien non plus, Christophe Lavaux. Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il est né en 1747, il est décédé en 1836. Il est négociant à Nancy. C'est dans cet état-là qu'il rencontre Gilbert. Quand Gilbert arrive lui-même à Nancy, il lui sert un peu de protecteur, il est ami avec lui, enfin, ils font la bamboula, qu'on dirait aujourd'hui, ou hier d'ailleurs. Peut-être autrement aujourd'hui.
La teuf,
voilà. Et c'est un personnage qui intrigue. Commerçant en draperie à Nancy, il devient avocat, il va à Paris, et il finit quand même, si je puis dire, pas sous la guillotine, parce que voilà. Et je ferais mieux de lire mes notes, parce que quand même. Et il était marié avec une fille unique d'un peintre, de Nancy, qui était parmi les plus célèbres de l'époque, et c'est pour ça qu'on a un tableau, enfin qu'on avait, parce que si quelqu'un sait où il se trouve, qu'il ne m'en fasse pas, il y a un tableau de Gilbert qui se promène dans la nature depuis pratiquement 2 siècles, on ne sait pas où il est. Je pense qu'il est dans la famille des Lallemand, qui était avocat à Nancy, mais bon, ça vient juste, ils ne savent même pas qui c'est, le personnage qui est représenté. Moi, j'aimerais bien le trouver un jour. Et Christophe Lavaux a terminé non pas sous la guillotine, mais comme je cherche mes notes, pardon, vous voyez, quand je me range. Je vais vous lire une partie de la notice du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. Il se montra dès le début de la Révolution complètement hostile aux idées nouvelles, fit partie de la réunion royaliste connue sous le nom de Salon français. Écrivit à la Convention lors du procès du roi pour demander de partager avec Malesherbes la défense de Louis XVI. Il plaida pour un grand nombre d'accusés royalistes devant le tribunal révolutionnaire et ne fut point inquiété grâce à Fouquier-Tinville qui aimait fort les citations latines que Lavaux prodiguait dans ses plaidoiries. Au 13 Vendémiaire, Lavaux prit part à l'insurrection contre la Convention. Sans être arrêté, lors de la réorganisation des tribunaux, il devint avocat à la Cour de cassation et continua sa profession après le retour de Louis XVIII. On lui doit des ouvrages estimés, en particulier les campagnes d'un avocat ou anecdotes pour servir à l'histoire de la Révolution, mémoire autobiographique où l'on trouve de curieux détails sur Danton et sur Fouquier-Tinville. Christophe Lavaux reçoit la Légion d'honneur en 1818. Donc ce garçon qui fait la fête à Nancy... prend des risques, il était quand même courageux, parce qu'à cette époque-là, qu'il y en a pas mal qui ont mal terminé. Donc je me pose la question, si Gilbert avait vécu, qu'est-ce qu'il aurait fait en compagnie de ce genre de choses? Jean Sigisbert Mandel, pardon.
J'allais dire une bêtise, j'allais dire on n'a pas la clé.
Voilà, c'est ça. Jean Sigisbert Mandel, qui est né en 1725, mort à Nancy en 1828, et aussi fils de marchand, secrétaire de l'intendance à Nancy, avocat, receveur du roi, secrétaire du procureur général en la Chambre des comptes, puis rentier, marié à Toul, il accueille Gilbert à son domicile nancéen, encore une fois, pas de mauvaise adresse a priori, hein, pour le gîte et le couvert au cours des années 73-74, entre 12 et 18 mois selon les sources. Sa fille Catherine, épouse de l'horloger Charles-Joseph Ducreux, vivra 100 ans jusqu'en 1862 et aura l'occasion de raviver le souvenir de Gilbert au cours d'entretien avec un député qui s'appelait Auguste Salmon en 1858 et qui a commis un texte biographique sur Gilbert. François-Joseph Bonfils est aussi l'un de ceux qui accueillent Gilbert à Nancy. Enfin, je cite ces noms-là parce que franchement, il n'était pas solitaire, il n'était pas... Enfin voilà. Évacuons ça de nos têtes. Il fréquente les libraires Jean et François Babin et il est reçu dans la demeure de Monsieur de Civry, rue du Manège, dans les salons, au cours des salons qui sont tenus à l'époque par cette importante personnalité nancéienne. Il arrive à Paris. Qui rencontre-t-il à Paris? Donc d'Alembert, mais il se fait jeter, si j'ose dire. Et donc il va ailleurs. Et il rencontre François, Thomas, Marie de Bacula d'Arnaud. Ça parle? Non. Bon, j'ai pas de chance hein, ce soir.
Arnaud peut-être?
D'Arnaud. Donc 1718-1805, je vous donne les dates parce que Gilbert, rappelez-vous, il est né en 1750. Vous voyez, c'était un vieux monsieur pour lui. Il est issu d'une famille de la petite noblesse du comtat vénitien établie à Lille. Son père avait pris le nom de Thomas Baculard d'Arnaud lorsqu'il était devenu secrétaire du roi en 1717. Homme de lettres, poète, romancier, auteur dramatique, François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnaud obtient un succès considérable avec particulièrement son Comte de Comminges. C'est une pièce qui est parue adaptée de Madame de Tencin. Sa réputation est établie lorsque Gilbert le rencontre peu après son arrivée à Paris en 1770. Il a alors 52 ans et va épouser le 9 août Antoinette Berger d'Aubigny, dont il aura un fils. Baculard, qui toute sa vie connaîtra des soucis d'argent, assiste le jeune provincial de plusieurs manières. Pécuniairement lors de moments de mieux-être, en lui procurant moult conseils et en l'aidant à créer son réseau relationnel dans la capitale. Baculard est connu et a ses entrées dans pas mal de salons. Il éprouve quelques acrimonies envers Voltaire. Après en avoir été le disciple, il en est devenu en effet le souffre-douleur. Il a certainement fait part de ses expériences à Gilbert, qui a pu en tenir compte dans ses écrits. Franc-maçon dès 1744, Baculard est un ami intime de Jean-Baptiste Greuze, qui sera reçu franc-maçon en 1778 à la loge des Neuf Sœurs, la loge qui recevra Voltaire. Gilbert connaît Greuze pour l'avoir rencontré en compagnie de Baculard. Je me suis intéressé donc à la biographie de Gilbert et j'ai essayé de regarder des choses qui n'ont été absolument pas du tout creusées par mes prédécesseurs. Comment se fait-il que ce jeune Lorrain, quasi inconnu à l'époque, se fasse tirer le portrait par l'un des peintres les plus célèbres de Nancy? Comment se fait-il que dans la presse, il publie, alors qu'il y avait quand même, je ne vais pas vous citer, mais il y en a quand même une ribambelle, sinon autre chose. Comment se fait-il que dans la presse, il consacre deux poèmes importants à l'artiste Greuze? Personne ne s'est posé la question. Je me dis, mais il y a un truc là. Donc j'ai essayé de reconstituer le réseau. C'est pour ça que je...
C'est très bien.
Donc, le Vosgien n'est pas avare de gratitude envers Baculard d'Arnaud. Il compose des stances à d'Arnaud qu'il prend soin d'intégrer en 71 dans les 60 pages de la première édition du Début poétique et qu'on retrouve dans la seconde en 72. La bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal possède désormais le manuscrit de cette œuvre, acquis sur mon conseil avec une lettre autographe au cours d'une vente aux enchères à Paris en octobre 2018. C'était les ventes aristophiles, vous savez. À propos de franc-maçonnerie, les encyclopédistes comptent peu d'initiés. Citons Voltaire, parrainé peu avant sa mort, trois mois avant sa mort, par le marquis de Villette, qu'il était. Dans les rangs de leurs adversaires, ils sont nombreux, à commencer par le grand maître, Louis-Philippe d'Orléans. Plusieurs tabliers figurent en bonne place parmi les relations de Gilbert, Baculard d'Arnaud, François de Neuchâteau, Jean-Baptiste Greuze, Élie Fréron, Lacoré, Vergennes, le libraire Ballard, d'autres encore. Ça fait quand même beaucoup autour de lui. Mais j'ai pas été fichu de relier notre poète à la maçonnerie. J'ai rien trouvé. Pourtant, je suis allé, j'ai bénéficié d'aide, en particulier d'Emmanuel Pierrat, qui est l'un de vos voisins, et puis de Jean Bossu, qui est décédé depuis quelques années, voilà, mais qui avait fait une étude et rien trouvé. Si vous avez des entrées quelque part, faites-moi pas. Dans les lieux fréquentés à Paris, d'autres noms sont associés à la personne de Gilbert, qui, on le voit, bénéficie d'un excellent réseau. Les hommes de lettres, Claude-Joseph Dorat, Barthélemy Imbert, Louis-Sébastien Mercier, les dramaturges Charles Palisseau de Montenoy et Jean-Baptiste Louis Simonet de Maisonneuve, qui l'accompagnera dans sa tombe, contrairement à Bernadotte. Le journaliste Stanislas Fréron, le fils de l'autre. Le général de Monténard, le lieutenant général de police Antoine de Sartines, Edme Ferlet, docteur agrégé de l'université, secrétaire de l'archevêché, Jean-François Godescar, chanoine de Saint-Honoré, les abbés de Crillon, Grosier, Laris Levêque, Royou, et cette liste n'est pas exhaustive. Donc vous voyez qu'il avait quand même un gros, gros réseau. Il est temps d'arriver à peu près à la conclusion. Oui, j'ai quand même encore quelques pages, ça va ? Je fais comme ce chroniqueur de France Inter qui annonce toujours 10 minutes avant la fin de sa chronique. Sur des pensées nouveaux, faisons des vers antiques, écrit Chénier. On ne trouve pas un tel art poétique chez Gilbert, qui n'en est pas encore, à renoncer à l'imitation des anciens, toujours en faveur. Il lui aura sans doute manqué un peu de temps pour embrasser un renouveau littéraire en vogue quelques années plus tard. Plus que son style, une part de son inspiration, le poète misère, et sa triste fin, le poète mort jeune à l'hôpital, laisse une trace indélébile dès avant le romantisme. Ses successeurs s'acharneront à faire de sa personne la victime expiatoire d'une société cruelle. La décennie 70 est riche en événements politiques ou sociaux. Contrairement à Chénier, Gilbert ne trouve pas un intérêt primordial au méandre de l'histoire, le combat d'Ouessant excepté. Il vit aux marges de la cour, se soumet à ses codes, recherche la protection de grands, en n'hésitant pas à brosser tel ou tel dans le sens du poil. Sartine, Montenard, Monsieur. Les sujets principaux de ces pamphlets demeurent l'impiété, le relâchement des mœurs et la décadence de la vie littéraire. Se plaçant délibérément dans les pas de Juvenal ou de Boileau, c'était la mode à l'époque, il faut le rappeler, satiriste incontesté, il met à profit la devise de Jean de Santeul, reprise par Molière, « Corriger les mœurs par le rire ». Signe d'un talent manifeste, il parvient à se faire un nom, dans un milieu porté vers l'éloquence, l'ironie, la verve, la violence symbolique, où le ridicule tue encore. La presse l'accompagne tout au long de son envol. Nous avons recensé pas moins de 183 articles entre 1770 et 1781. Il y a peu d'auteurs de l'époque qui bénéficient de cette couverture de presse, comme on dirait aujourd'hui. L'hypersensible Gilbert ajoute à cet ensemble une propension originale à se montrer un peu étranger à Paris. Il ne renie pas les Vosges, chantant les rives de la Saône, bien qu'il affirme ailleurs que « ma patrie est partout où me sourit l'honneur ». Dans ses débuts, ses textes s'accommodent à deux reprises, au moins de tournures stylistiques locales qui révèlent ses racines. Il revendique sa qualité de Lorrain, le duché de Lorraine étant depuis peu, en 1766, 4-5 ans avant quand même, rattaché officiellement à la couronne de France, et élève sa patrie d'origine en état exemplaire. « Tout ce que vous étiez alors, tout ce que vous êtes aujourd'hui, Lorrain, vous le devez à Léopold. » Fallait l'écrire. Si ce n'est François de Neufchâteau, d'autres seront beaucoup plus discrets quant à leur naissance lorraine. Palisseau, Saint-Lambert, pour ne citer qu'eux. La brièveté de son parcours fait que de nombreux textes, surtout parmi les premiers, souffrent d'inaboutissement. N'est pas Rimbaud qui veut, qui d'emblée compose des chefs-d'œuvre. Gilbert a besoin de faire ses gammes. Il l'exprime d'ailleurs dans la préface de son début poétique, dont le titre est un aveu.
Tout a dans la nature une gradation imperceptible. Le fleuve, vers sa source, ne roule point d'abord des eaux profondes et majestueuses. Le soleil naissant est faible et peu radieux. L'aigle, avant de s'élever au nu, rase longtemps la surface de la terre. Vous voulez que le poète seul soit à son aurore ce qu'il doit être à son midi ?
Plusieurs pièces, et pas seulement ses satires et ses odes, portent en elles de remarquables passages qui laissent présager un avenir brillant. Stérile conjecture. Mort en 1780, 9 ans avant les rêves et les horreurs de la Révolution, il est impossible de savoir comment le quarantenaire se serait comporté dans ce futur troublé. Les mentalités qui évoluent, l'opinion publique qui pèse de plus en plus lourdement, un pouvoir pour le moins maladroit, ces contingences sont difficiles à appréhender dans le parcours d'une vie interrompue. Comment la personnalité forte et volontaire de Gilbert, d'abord versée dans un projet politique très conservateur, se serait-elle accommodée de ces orages ? Aurait-il fini comme André Chénier sur la guillotine ? S'en serait-il sorti avec les honneurs comme son ami l'ancien Christophe Lavaux ? Cet autre débat reste vain. Et pourtant, en 1799-1800...
Le mouvement contre-révolutionnaire exploite un poète mort 9 ans avant 1789 qui s'était rendu célèbre par ses satires anti-philosophiques. Gilbert, l'auteur du XVIIIe siècle, dédié à Fréron en 1775. La multiplication des imitations et des références à son nom nous autorise à parler d'une véritable opération Gilbert en l'an 8. Les œuvres de Gilbert avaient été rééditées en 1788, mais elles ne paraissaient pas devoir conserver à travers la Révolution leur force corrosive. Elles semblaient destinées à s'éloigner de leur origine polémique et à gagner une honorabilité littéraire.
Et pourtant, de fait, Gilbert constitue un modèle ou un repoussoir, selon, pour des poètes, plein de noms inconnus, je vous rassure tout de suite, mais quand même il faut les citer parce que c'est, voilà, il y a une suite, comme Victor Campagne, Joseph Despaz, le chevalier Bernard François Anne de Fonvielle, Charles-Joseph Colnay du Ravel, Pierre Baour Lormian, Louis-François Chevalier, Charles Pinière, Louis Damin, Michel de Cubière, François-Jean du Saussoir. Vous en connaissez au moins. S'approcher au mieux de Gilbert, trop souvent réduit au souvenir flou d'une image d'Épinal et de quatre vers, nécessite une patiente enquête. S'agissant de sa vie privée, les documents originaux ne sont pas si nombreux, au contraire des documents de seconde main qui sont pléthores et renseignent essentiellement sur le rapport binaire entretenu par les exégètes sur le sujet de leur étude. En approchant les différents cercles lorrains ou parisiens dans lesquels évolue Gilbert, j'ai tenté de saisir sa véritable nature. Je me suis interrogé sur la fabrique de la notoriété et les caisses de résonance de celle-ci, journaux, cercles littéraires, recours aux recommandations, parrains, etc. Combien d'idées reçues ? Réhabilitons Gilbert. Certes, le poète émerveillé laisse de belles pages en chantant la nature, en célébrant la littérature. La belle âme a su se plaindre, comme nul autre pareil. Ce n'est pas faire injure à sa mémoire que de le considérer d'abord et avant tout comme un indigné contre les mœurs de son temps, culturelles et sociales, cultuelles et politiques, contre cette apparente facilité de se défaire de Dieu tout autant que des traditions. De l'envisager comme un observateur attentif de la déliquescence morale qu'il perçoit en fréquentant le monde, celui des lettres et l'autre, plus considérable, qui coexiste à l'extérieur de cette bulle quelques années avant la Révolution. La personnalité de Gilbert est plus complexe qu'il n'y paraît et défie l'image qu'on en garde. Relisons ses œuvres. Et afin de mettre ces derniers mots en pratique, voici deux nouveaux extraits de sa seconde satire, le XVIIIe siècle, publié en 1775.
Vois-tu parmi ces grands leurs compagnes hardies imiter leurs excès par eux-mêmes applaudis, dans un corps délicat porter un cœur d'airain, opposer au mépris un front toujours serein, et de l'autre en public affectant l'assurance, sous leur casque de plume étaler l'impudence. Assis dans ce cirque où viennent tous les rangs, souvent bailler en loge à des prix différents, Clovis n'est que paré, et Cloris se croit belle. En vêtements légers, l'or s'est changé pour elle. Son front, lui, étoilé de mille diamants, et mille autres encore effrontés ornements, serpentent sur son sein, pendent à ses oreilles. Les arbres, pour l'embellir, ont uni leurs merveilles. 20 familles enfin couleraient d'heureux jours, riches des seuls trésors perdus pour ces atouts.
20 familles enfin couleraient d'heureux jours, riches des seuls trésors perdus pour ces atours.
Parlerais-je d'Iris ? Chacun la prône et l'admire. C'est un cœur, mais un cœur, c'est l'humanité même. Si d'un pied étourdi, quelque jeune éventé frappe, en courant son chien qui jappe épouvanté, la voilà qui se meurt de tendresse et d'alarme. Un papillon souffrant lui fait verser des larmes. Il est vrai, mais aussi qu'à la mort condamnée, la lie soit en spectacle à l'échafaud traîné, elle ira la première à cette horrible fête, acheter le plaisir de voir tomber sa tête.
C'est rude.
En effet.
C'est du Gilbert. Je remercie Madame Colette Klein et Monsieur Jean-François Blavin d'avoir bien voulu prêter leur voix à celle de Gilbert et leur talent à la lecture des textes qui ont illustré cette conférence. Et je vous remercie, Monsieur Fournier, de m'avoir invité à cette conférence.
C'est surtout nous qui vous remercions de votre formidable érudition et de ce balayage des lieux communs que vous avez fait pour Nicolas Gilbert, qui remonte un peu comme ça dans nos mémoires. Merci beaucoup. Oui.
Non, mais ça n'a pas. C'est simplement que dans ce moment sur Arte, il y a aussi une tombe d'hommes sur cette époque qui s'appelle Brian Affair.
Ah oui.
Alors, je ne sais pas qui l'a vu.
Oui.
C'est exactement à cette période, et je pense que si tu en parles, parce que je l'ai revu aujourd'hui, un excellent film, qui se passe à l'époque des Lumières.
C'est vrai.
Au Danemark.
C'est vrai, oui, je l'ai vu ce film, effectivement, c'est assez caractéristique de cette époque. Si on parle cinéma, moi, ça m'a fait penser un peu à Ridicule.
Oui.
Hein, on voit donc l'épigramme, la force de l'épigramme, et comment tout peut se construire rapidement. Enfin, et puis, je crois que le héros venait des Dombes, aussi de la province.
Pour reparler de cinéma, moi, Gilbert me fait penser... comment s'appelle ce film ? J'oublie tout le temps, moi, j'ai la mémoire qui flanche. Le film sur Mozart.
Amadeus.
Vous rappelez quand il joue, puis tout d'un coup, il éclate de rire, etc.
Oui.
Il enlève sa perruque, enfin voilà. Moi, j'ai l'impression que Gilbert ressemble beaucoup plus à ça qu'au petit être morfondu que l'on se plaît à décrire habituellement, vraiment.
Mm-hmm. Oui, Jean-Noël.
Merci infiniment, cher monsieur, pour cette conférence qui laisse tomber avec grande précision ce 18e siècle, cette seconde moitié du 18e siècle, totalement oublié aujourd'hui par la plupart des gens. Il y a un certain nombre de points, vous avez abordé, j'en relève quelques-uns. On prête à Gilbert ce vers, un seul être me manque et tout est dépeuplé, qui aurait été repris par Lamartine et qui devient, par un trait de génie d'un simple changement de pronom, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Est-ce apocryphe ? Ensuite, vous avez évoqué l'année littéraire de Fréron, bien sûr, mais pas les mémoires secrètes de Bachaumont. Il doit en parler, je pense. Je ne m'en souviens plus, mais je pense que... Ainsi que la correspondance littéraire de Grimm, qui évoque aussi...
On m'avait laissé une heure trente.
Oui. Et puis, comment dirais-je, vous évoquez la loge des neuf sœurs. Il ne faut pas croire que la loge des Neuf Sœurs, à l'époque, est la grande loge prestigieuse parisienne. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une loge maçonnique stricto sensu. C'est en fait une académie, en réalité.
C'était quand même une loge maçonnique.
Bien entendu, mais tout le monde l'était. Mais, comment dirais-je, c'est surtout une loge qui regroupe toutes les élites intellectuelles de son temps. C'était donc plus une société de pensée qu'une loge initiatique. Oui, il y avait des rituels minimum, mais voilà. Et peut-être Gilbert en a-t-il été, parce que tout le monde l'était. Florian, on a été aussi
dans cette loge. Franchement, j'ai cherché.
C'est très difficile de savoir les états de service.
On a des fiches.
Mais il manque à des tas de fichiers qui... Vous avez aussi évoqué... Oui, j'ai évoqué les mémoires de Madame de Créqui. Chacun sait que c'est un faux. Il y a 9 volumes qui ont été publiés dans les années 1830, si je me souviens, par Touchard Lafosse, ou je ne sais pas qui.
J'ai pas son nom là.
Oui, je ne sais plus. Touchard Lafosse, oui. C'est la chronique de l'œil de bœuf. Mais les mémoires de Mme Vrecky, il y a 9 volumes, elle aurait vécu 100 ans, puisqu'elle serait née en 1710 et qu'elle serait morte en 1810, et elle évoque, quand on lit ses mémoires, qu'elle a connu Louis XIV, petite fille qui l'a portée sur ses genoux, et qu'elle est allée saluer le premier consul à la fin de sa vie. Mais bon, c'est plein d'anecdotes.
J'ai cité ce bouquin pour justement, quand on le connaît un peu comme vous, on sait que c'est faux, la plupart des choses des morts sont fausses. Donc ce qu'on y trouve concernant Gilbert, j'allais pas dire nécessairement faux, mais il y a vraiment... Et c'est elle qui donne cette affaire du roi de Suède, qui est fausse, c'est vraiment fausse, oui, bien sûr.
Maculard d'Arnaud, avec le comte de Comminges, est considéré aujourd'hui dans l'histoire littéraire, me semble-t-il, avec Fontenoy et la prise de Calais, le siège de Calais, comme le préfigurateur lointain du drame romantique.
Et pire que ça, il est préfigurateur des pièces d'horreur, de faits divers, d'horreur du début du 19e, pardon, de la fin du 19e.
C'est ça.
Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est strictement inconnu. D'ailleurs, je vous ai donné plein de noms inconnus là, ce soir.
Qui a un rôle quand même relativement important dans l'histoire littéraire, malgré tout. Et puis enfin à Florian, parce qu'on peut le comparer aussi un peu à Florian. Florian était 1754, et il est mort en 1794. Donc même génération, Florian a vécu un peu plus vieux. On peut faire les mêmes reproches à Florian, une œuvre inaboutie, qui a eu du succès à l'époque, mais Florian quand même était académicien, ce que n'a pas eu le temps d'y arriver. Mais aussi, Florian, son œuvre est totalement oubliée aujourd'hui, ou presque. Les fables, voilà, mais les pastorales, tout ça, on peut les plus, c'est ça. Voilà. En tout cas, vraiment merci, cher monsieur, d'avoir restitué cette époque pleine de charme et de contraste, qui était la seconde moitié du XVIIIe siècle, où à la fois on pleure beaucoup et où on s'enthousiasme pour les Romains.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Merci Jean-Noël, effectivement, je vais vous en faire deux érudits, c'est un plaisir de vous écouter. Et alors ce vers, ce lettre me manque et tout est détruit.
Alors il y a plusieurs, celui-ci, j'en suis même pas sûr, moi, qu'il y soit dedans. Ah. En revanche, il y a plusieurs vers de Gilbert qui ont été repris par Alfred de Vigny, un par Victor Hugo. Alors je ne les ai plus en tête complet, je risquerais de dire des bêtises, mais enfin, ils ont puisé modestement, mais quand même, dans l'œuvre de Gilbert. Donc c'est...
D'accord.
Une question, s'il y a lieu.
Oui.
Merci d'avoir, évidemment, pour cette savante et riche...
Un peu plus fort peut-être.
Merci d'abord pour cette savante et riche exposition. Évidemment, c'était très charmant. Je vais trouver la partie peut-être la plus intéressante de votre exposé. Les broderies, les imaginations, les fictions sous l'œuvre et sous la figure surtout du Gilbert qui ont fait florès, j'ai cru comprendre surtout sur la deuxième partie du 19e siècle. Les vrais, parfois, nous apprennent moins que les faux. Et souvent, l'intérêt et l'enseignement qu'ils peuvent porter est plus riche de celui du faussaire que de l'authentique. Outre les capacités littéraires, évidemment, la fraîcheur de la satire, quelles sont les raisons du succès de Gilbert ? Ce n'est pas que qui ont intéressé à ce point ces écrivains, ces pamphlétaires, de falsifier ou... plier sa figure. Quelles ont été les raisons de s'emporter dans tel boutin, si vous me permettez la
question? Oui. La chose est assez facile à expliquer en définitive. Gilbert était un écrivain de salon. Il fréquentait les salons. Deux, trois ans avant ses publications, il clamait des textes à la face du monde. Il répondait d'ailleurs souvent, parce qu'à cette époque, on répondait en vers, parfois, je parlais de la baronne de Prinsen tout à l'heure, il lui a donné un quatrain, vraiment, c'était comme s'il lui mettait deux baffes, quoi. Mais vraiment, hein, c'est violent. Et il avait ce succès-là dans les salons. Et donc, quand ces satires sont enfin parues, il y en a une qui s'appelait Le Siècle, qui est parue à Nancy, il semblerait, et j'ai jamais trouvé, personne n'a jamais trouvé une édition originale, on n'en trouve plus. Heureusement, on a une copie de quelqu'un du 19e qui a vu passer ça, et voilà, donc je l'ai dans mon bouquin, mais copié d'une copie. Bon. Mais elle a existé, parce qu'il y a eu des critiques, il y a eu des recensions de cette satire-là. Et en 1775, quand il a fait publier sa première, enfin sa deuxième, mais sa première vraie commune à Paris, le 18e siècle, c'était plein de... J'ai donné tout à l'heure, ces personnes, vous avez lu des extraits de cette satire-là, c'était plein de baf, mais vraiment, quoi. Et les gens se les récitaient. Je parlais tout à l'heure du prince de Ligne. Le prince de Ligne, dès avant 1772, écrivait... Donc c'est un truc qui est paru en 1975. En 72, le prince de Ligne mettait déjà des vers de Gilbert dans ses lettres qu'il envoyait aux uns aux autres. Donc ça veut quand même... Et que celui-là s'intéresse un peu, je suppose que plein d'autres s'y intéressaient aussi. Donc il a fallu... démonter, dévisser, si j'ose dire, la figure de Gilbert. Et comment on l'a fait ? Alors, ceux qui l'ont défendu l'ont mal fait, parce que c'était du côté catho, et l'ont fait d'une manière désespérante. Et les philosophes l'ont attaqué d'une manière extrêmement cruelle. Gilbert est mort en novembre 1780. En janvier 1781, il y avait son... comment on appelle ça sa nécrologie, dans le Nécrologe des hommes célèbres, vous pouvez voir ça, c'est une revue qui existait à l'époque. Le rédacteur de cette page, enfin de cette dizaine de pages sur la mort de Gilbert, quand même, il faut. Voilà. Mais c'est un ramassis de. Pardon, il y avait les oreilles chastes, mais de saloperies sur lui. C'est invraisemblable, invraisemblable. Et pourtant, c'est écrit, donc c'est vrai, hein, c'est un peu comme c'était BFM, quoi, hein, c'est un peu la même chose. Et c'est ça qui a fait que voilà. Donc, d'un côté, un jeune homme, comme je l'ai dit, qui était sincère, qui était courageux, il s'est trouvé dans différentes situations où on n'aurait pas aimé les uns et les autres se trouver, hein, quand même. Il était sincère, de foi catholique profonde. Bon, on pense qu'on en veut, je ne suis pas tout à fait de ce côté-là, mais c'est son truc. Donc, voilà. Il défendait son idée. Et de l'autre côté, ben, y a des gens qui l'assassinaient au propre comme au figuré. Quoi. Bon, après, voilà. Et après, y a le problème, c'est que c'est les cathos, pardon, qui ont défendu plus l'image de Gilbert que les philosophes qui n'existaient plus. Donc, on a conservé de Gilbert les énormités qui ont été écrites par quelques curés dont j'ai donné quelques exemples. Il y en a plein, hein, leurs œuvres sont pourries, quoi, de choses comme ça. Et donc on a gardé cette chose-là avec en brodant facilement, poète malheureux, mort à l'hôpital, etc. Il est mort à l'hôpital, il est resté quand même trois petites semaines à l'hôpital, parce que l'archevêque l'a balancé là-bas, mais c'était pas pour... Il avait, j'allais dire, c'est con, mais il avait un lit individuel. Ce qui, franchement, à l'Hôtel Dieu, à cette époque-là, c'était la classe, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Parce que vous étiez à quatre dans un lit, tête bêche. Hein. Ouais. Et lui, il avait son pieu à lui tout seul. Non, mais je dis ça. Je dis avec des termes peu choisis, je suis d'accord, mais il faut quand même entrer ça dans les têtes, parce que c'est... Voilà. Et l'archevêque le suivait de loin, mais le suivait quand même. Hein. Voilà. Ça va, j'ai répondu.
Ouais, voilà, c'est intéressant.
Il Palissot.
Charles Palissot de Montenoy. C'était un Lorrain.
C'est ça, ou les philosophes, je ne me souviens plus.
Oui, c'est ça.
Donc, il devait être apprécié de
Palissot. Ils s'entendaient bien jusqu'au bout, ils sont un peu fâchés. Mais bon, mais ils sont entendus.
Daniel,
je comprends bien la détestation de Gilbert vis-à-vis de Voltaire. À part l'influence de
Arnaud. C'est-à-dire que Voltaire, c'était le parangon de la culture de l'époque, quoi. Si on était, d'ailleurs, Gilbert a écrit quand même deux, trois gentillesses sur Voltaire, tout au début. Mais après, il a rencontré Baculard d'Arnaud, il s'est fait jeter par D'Alembert, il a rencontré deux, trois autres philosophes comme ça, et surtout il a subi la presse, donc à l'époque c'était le Mercure de France principalement, qui était le porte-voix des philosophes, mais d'autres journaux aussi. Et donc quand il lisait, parce qu'il lisait Gilbert ses critiques, il en tenait compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans les rééditions. Et quand il a lu ça, il s'est dit, il faut que je m'attaque au monstre sacré. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça le truc. Mais ils ne se sont jamais rencontrés, sinon ce 30 mars 1778 dont je parlais tout à l'heure.
Et en revenant à notre sœur, c'était plutôt, sinon une loge ou une académie progressiste.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc Nicolas Gilbert, là-dedans, peut-être...
Il aurait pu y être, hein, franchement, il aurait pu.
Parce que là, vous en faites un portrait plutôt très conservateur.
Oui, mais à l'intérieur des Neuf Sœurs, il y avait pas mal de gens qui étaient quand même très cathos, hein, c'était oui. Principalement ça. Ils ont fait entrer Voltaire un peu par, j'allais dire, par accident.
Oui, presque.
Il y en avait trop.
Opportunisme. Très, très, très bien. Oui, une nouvelle question.
J'ai une question un peu précise et sans vouloir remettre en cause votre très riche érudition. J'aurais été intéressée pour savoir si vous aviez des textes ou des histoires, des anecdotes finalement, entre Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans, que vous avez évoqué au début, et Gilbert.
Moi, j'ai pas. Paris Match n'était pas là, donc j'ai pas les choses. Mais ils se sont nécessairement rencontrés, en particulier par l'intermédiaire de Vergennes, qui était le ministre des Affaires étrangères, et d'autres aussi, on a plusieurs. Mais on n'a aucun dialogue, on a rien. Hein. Mais ils se sont vus, ben, il lui a donné des sous. Donc.
Très bien. Vous avez donc quelques livres. On va peut-être arrêter maintenant, sauf s'il y a d'autres questions. Et puis, il y a quelques livres ici.
J'en ai pas beaucoup, j'en ai deux.
Précipitez-vous. Merci en tout cas, mille fois. C'était très joli.